RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Évidemment, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas.tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, Vincent Siandra. Bonjour Vincent.
Bonjour Billy.
Vous êtes le PDG de Metron et nous sommes reçus dans vos locaux. À vos côtés, Timothée qui est là. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Je vais y arriver, hein, Timothée. Voilà, cofondateur d'Ecodef. Bien, nous allons accueillir aujourd'hui Philippe Kunter. Bonjour.
Bonjour.
Cher Philippe, vous êtes directeur RSE de BPI France. Philippe, vous êtes boulonnais. Vous êtes un banlieusard. Boulogne-Billancourt.
Oui, ça part bien.
Ça part bien. Hein. Alors, c'est une belle banlieue qui a connu les grandes heures des garages et des voitures. Et aujourd'hui, on va parler de RSE. On inverse un petit peu la tendance. Vos études, ça ne vous plaisait pas beaucoup. Pourquoi ? Vous n'étiez pas fait pour ça ?
En fait, c'était faire entrer un carré dans un rond, si vous voulez.
C'est compliqué.
C'est un peu compliqué. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une question d'adaptation. À un moment donné, c'est de se dire si on est vraiment fait pour ça ou pas. Voilà, c'est ça.
Mais vous avez quand même obtenu, comme on faisait à l'époque, le bac.
Oui, oui, quand même.
Ah oui, et c'était un bac D.
Oui.
Bah oui, c'est important le bac D.
Bah, un bac, c'est important, c'est le passeport pour aller plus loin.
Ensuite, vous avez passé un concours pour une école de commerce, après une prépa, mais toujours pas satisfait. Vous trouvez enfin, alléluia, une école qui vous convient. C'était le début de ce qu'on appelle les écoles en alternance. Et là, pour vous, c'est une révélation parce que finalement, vous aviez besoin, non pas que des études, mais il fallait déjà avoir les mains dans le cambouis, c'est ça ?
C'est un peu ça. C'est-à-dire que je m'étais fixé comme objectif un an de prépa, pas deux. Et j'étais proche de l'admissibilité de grandes écoles, mais je me suis dit non, je retends deux concours. Et j'ai opté pour l'école qui, à l'époque, présentait la formation la plus efficace en alternance. À savoir mixer des périodes de contenu, de fort contenu, et des périodes très opérationnelles de stage dans les entreprises. Et donc, à l'époque, il n'y en avait pas 50. Et celle-ci m'a paru. Et le choix serait à refaire. Je le referais de la même manière, d'ailleurs.
Alors, finalement, ces stages ont été assez productifs, puisque votre premier job, arrive à la suite d'un stage. Vous commencez par une agence de pub qui appartenait au groupe Havas. Mais encore une fois, l'ennui vous guette. Il n'est jamais loin, cet ennui. Alors, qu'est-ce que vous faites ?
En fait, je m'étais trompé de trajectoire.
Oui, vous dites, je suis banquier, quoi. J'avais pas dans la pub.
J'avais négocié mon stage de fin d'études et c'était un premier emploi, en fait. Voilà, c'était une façon tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Et j'avais refusé les banques dans lesquelles j'avais été accepté. Et je me suis rendu compte au bout d'un an que j'avais besoin d'avoir ce lien plus avec l'économique, les secteurs d'activité, savoir comment ça se passait dans les entreprises, etc. Donc, je suis revenu dans les banques, en fait, au bout d'un an. J'ai quitté, effectivement, la pub, où j'avais un poste très sympa de contrôleur de gestion.
Bah oui, sympa, la pub.
Ouais.
Alors, vous revenez dans la banque, qui est votre secteur au départ. Vous débutez à la Bred, et là, très jeune, on va vous confier de grosses responsabilités. Et vous allez retrouver ce que vous aimez, c'est-à-dire le monde de la banque, mais également travailler en équipe. Ça veut dire quoi, à cette époque-là, tout jeune, de grosses responsabilités ?
Alors, ça va très vite. C'est-à-dire qu'on me met au guichet... c'est une banque que j'avais refusée. Donc, j'avais un genou à terre, naturellement. Donc, on me dit, on va vous faire payer le prix fort. Et donc, j'accepte. On me met au guichet. 3 mois après, on me donne numéro 2 de la plus grosse agence parisienne. Et 2 ans après, donc directeur d'agence à 28 ans. Donc, ce qui est très sympa. Et là, je commence à comprendre un peu les ressorts. Ça veut dire qu'il faut un peu de chance. Il faut que des gens misent sur vous et il faut donner le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut être dans le développement, etc. Et là, on vous fait confiance. Mmh. Et donc ça, c'est important. C'était déjà les premiers ingrédients pour sentir un petit peu comment finalement... C'est un peu un mode opératoire, quelque part.
Ouais, oui. Alors, à propos de mode opératoire, vous dites qu'il faut le sens du collectif et que celui-ci, finalement, vous vient, 1, du sport et 2, de l'armée.
Oui. Je crois que j'ai jeté tous mes bouquins quand on m'a confié l'agence bancaire, parce que j'avais des gros problèmes RH avec des gens qui étaient dans l'agence, etc. Et on en a fait effectivement quelque chose d'efficace. Mais j'avais appris deux choses, c'est que le sport, c'est la valeur collective, se dépasser, la rigueur. Et l'armée, j'avais appris l'aspect de la structuration et du respect des hommes et des femmes avec qui on travaille, surtout dans les unités d'élite, où on porte un regard très attentif aux gens. C'est-à-dire, c'est pas simplement le bonjour, vous savez, amical, où on n'attend pas la réponse. C'est vraiment de regarder et de sentir les signaux qui vont vous faire dire, cette personne a une petite faiblesse, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, etc. Et c'est comme ça qu'on construit un collectif.
Alors, vous avez au niveau de la banque, j'allais dire, un CV aussi long que mon découvert bancaire, une filiale de... Ensuite, vous allez dans une filiale de la Caisse Nationale du Crédit Agricole, Unicredit, ensuite le Crédit Agricole qui rachète Indosuez, et là, vous allez beaucoup voyager, mais j'accélère forcément pour arriver en 2012-2013 où se crée la BPI, et vous foncez, et pendant quelques années, et vous dites que vous êtes le champion du monde des sujets, au départ, que personne ne veut, et là, vous arrivez à la RSE. C'est un challenge de prendre les...
C'est une marque de fabrique.
C'est une marque de fabrique chez vous.
C'est-à-dire qu'on me refile les sujets dont personne ne veut, parce que là-dessus, c'est formidable, personne ne se bat sur ces sujets, et vous en faites quelque chose.
Bah, surtout à l'époque, franchement, 2012.
Voilà. Mais c'est un peu dans mon itinéraire, il y a 2-3 endroits où ça s'est passé. À un moment donné, vous avez un sujet dont personne ne veut. Les gens se jettent généralement sur les sujets qui sont visibles, sur lesquels il y a une espèce de halo de lumière. Mais en revanche, ce qui est vraiment passionnant, c'est de partir de la feuille blanche, d'écrire quelque chose. Pour un développeur, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, vous montez votre boutique, vous montez un peu votre start-up quelque part, vous la développez, vous recrutez des gens et vous en faites quelque chose. Et ça, c'est sympa. Vous voyez, c'est une démarche qui est à la fois très enthousiasmante, avec beaucoup d'énergie. Les gens vibrent à ces projets, vous voyez, plutôt que d'avoir un truc de gestion en mode run. Là, ça les touche. Ça veut dire qu'ils ont envie de s'investir, ils ont envie de se dépasser, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, ce sont des sujets formidables. Donc, partir parfois d'une feuille blanche, c'est assez sympathique.
On va voir ce que ça donne au niveau des questions. Vincent.
Alors, Philippe, je crois que si je vous pose la question... de la prise de conscience au sein de la BPI des enjeux climatiques, la réponse c'est énorme. Alors, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fait.
Oui, alors le sujet est énorme. Le sujet est énorme pourquoi ? Parce que c'est un enjeu qui est fantastique, très important, avec beaucoup de conséquences. Nous, on l'avait dès le départ. Je dirais, il y a des faits qui sont penchés sur le berceau de BPI France et qui nous ont mis dans les textes de loi fondateurs. Je rappelle que 50% en tant qu'actionnaire, c'est l'État, 50% la Caisse des dépôts. Donc, il y a quand même une vision très, à la fois institutionnelle et business, en fait, de ces sujets. Nous sommes un investisseur, nous sommes un banquier, on aide les entreprises, on est un fournisseur d'argent, mais au-delà de cela... Il fallait intégrer un certain nombre d'éléments, et c'était dans les textes de loi, et notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Et le sujet, c'est que les enjeux sont immenses pour les entreprises, et le défi, c'est d'entraîner des milliers d'entreprises, de les aider, d'être utiles à franchir le cap. Si on n'arrive pas, il y a urgence, on le sait bien, le rapport de Jean Jouzel, le GIEC, etc., ça a été abordé largement. Si on n'arrive pas à faire en sorte que les entreprises, mais massivement, passent le cut, en faisant du bilan carbone, des trajectoires de décarbonation, etc., il y aura de la perte de valeur pour ces entreprises. S'il y a de la perte de valeur, elles vont intéresser moins les banquiers et les investisseurs. Et voyez, on est dans une spirale qui n'est pas formidable. Donc, il faut impérativement aider ces entreprises sur cet enjeu qui est central. On l'a depuis, nous, 2013, dans notre texte de loi. Et là, on accélère avec un plan climat depuis 4-5 ans.
Du coup, une accélération, une prise de conscience des entreprises qui veulent faire ou qui essayent de participer à cette transition. Ça veut dire du coup pour vous des nouveaux enjeux, des nouveaux moyens, des nouvelles problématiques. C'est quoi du coup la feuille de route BPI France lorsqu'on est directeur de la RSE pour les 5 années à venir par exemple ?
Alors là, on parlait du climat. Donc, le climat, c'est à la fois des partenaires, des process, des outils. Donc, il faut aider. Il y a tout un dispositif. Et quand on s'occupe de la RSE chez BPI France, c'est la création de valeur, la diminution des risques et la création de valeur, la résilience, de l'innovation, du sens. Ça signifie comment faire et comment aider une entreprise pour qu'elle intègre en son sein à la fois un projet, donc qui mobilise les hommes et les femmes, ça donne du sens, qui lui donne des projets innovants. Donc, dès que vous mettez en tension... les salariés d'une entreprise, eh bien, fatalement, ça les libère. Ils ont envie de participer. ils ont envie de trouver des solutions nouvelles, etc. Donc, ça crée une énergie formidable. Ça crée de la valeur et du développement. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle les ressources immatérielles, une valorisation d'entreprise entre 60 et 90%, c'est sur justement ces valeurs immatérielles. La qualité de l'équipe, le portefeuille client, la marque, etc. Donc, c'est très important de jouer sur ces leviers pour cocher toutes les cases que je viens de citer. Et c'est au-delà des cases.
Oui, Timothée.
J'ai pu voir que vous étiez un amateur du vivant et que vous adoriez la biodiversité. Est-ce que vous arrivez à faire un lien entre la BPI, le rôle que vous avez au sein de la RSE et votre mission au quotidien ?
Alors, c'est très connecté. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la biodiversité, mais c'est très connecté au climat, mais pas que. Hein, tous les experts sont en avis. En revanche, c'est un grand sujet de l'année. La biodiversité, le rapprochement du vivant, c'est essentiel. Tout ce qui est biomimétisme, vous savez, on revient beaucoup aux fondamentaux. On a l'impression de redécouvrir un peu la roue. Et c'est de se dire, mais dans la nature, etc. Bah oui, dans la nature, il se passe des choses. Il y a déjà des applications industrielles. Mais la biodiversité, c'est un enjeu qui aujourd'hui est un petit peu sous le radar. Tout le monde a conscience. Mais dès lors qu'une entreprise s'intéresse à la biodiversité, c'est de se demander qu'est-ce qu'elle peut faire en termes de mesures, en termes d'accompagnement, en termes, vous voyez, de comment elle porte ce sujet. Il y a des entreprises qui sont naturellement sur la biodiversité. Mais une entreprise dans les services va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour la biodiversité ? Donc, ce sont des sujets que l'on doit porter, qu'on doit aider, qu'on doit processer avec des instruments de mesure et aider les entrepreneurs à s'en emparer. Donc, vous voyez, c'est très connecté au climat, mais pas que.
Et puisque vous récupérez tous les sujets dont personne ne veut et qui sont plutôt finalement...
C'est un peu excessif. Hein, quand
oui, pardon. Moi, sur la partie professionnelle, minima, ouais. et que ça devient des perles, on va dire, professionnelles, vous visez quoi comme prochain rôle, comme prochain sujet ?
Ah, vous savez, quand vous êtes un développeur, vous gardez toujours le coup d'avant, quoi, en fait. C'est ça qui vous intéresse. Et dès que vous arrivez en mode gestion, ben, finalement, ce n'est pas le sujet. Et les défis que nous avons devant nous sont tellement énormes. Donc, lutte contre le réchauffement climatique, les transformations des entreprises, toute la transformation numérique. Ce sont, vous savez, dans l'histoire du monde, il n'y a pas eu des époques où il y avait autant de densité. Il y en a une, c'est entre 1400 et 1450, je crois, où on a découvert l'Amérique, on a découvert l'imprimerie, et il y a eu la chute de l'Empire byzantin. Et quand vous regardez ces trois éléments, c'était une restructuration totale. J'irai du paysage, hein, donc à la fois dans le savoir, à la fois la promesse de découverte de l'Amérique, hein, et la chute de l'Empire byzantin, je dirais le chamboulement géopolitique. Donc à partir de là, les données sont complexes et on est un peu à la croisée des chemins, hein, sur ces sujets, de cette manière.
Mmh. Alors au niveau de vos passions, il y en a pas mal. Le sport, évidemment, hein, c'est une véritable passion. Vous dites que vous avez touché à tous les sports terriens, en fait. Pas vraiment les sports aquatiques, hein. C'est pas votre élément,
non,
l'eau.
Non. Alors, j'ai du mal à coordonner la respiration et les mouvements.
C'est pas facile. Vous aimez également la gastronomie, vous faites très attention, vous êtes exigeant, vous dites que le bio de certains pays n'est pas le bio de d'autres pays. On va pas y revenir parce que je voudrais qu'on termine sur une activité que vous pratiquez également. Enfin, j'appelle ça une activité, mais elle est très intéressante. Vous participez à des réflexions avec l'armée, justement avec des thèmes de la porosité. C'est-à-dire que vous participez à des réunions, vous avez eu la chance de faire l'Institut des hautes études de la défense nationale, et avec des groupes de travail, eh bien, par exemple, vous êtes sur des sujets de réflexion qui ont été menés par l'armée de terre, comme notamment comment diriger demain. Et là, on revient quand même un peu à la sphère de la RSE dirigée.
C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on veut nous mettre en silo de plus en plus, et il faut lever les lignes de nage. C'est ça qui est intéressant. L'IHEDN, c'était très intéressant. J'étais le candidat de la Caisse des dépôts pour poursuivre ce cursus. Et je me suis aperçu qu'il y avait une véritable porosité. On a toujours, vous savez, on met des stéréotypes sur beaucoup de sujets, etc. Et là, il faut brasser tout ça. C'est beaucoup plus systémique. Et moi, j'avoue que, oui, je participe à ces sujets. Notamment, il y a deux sujets qui sont très intéressants. Il y a ce sujet... Comment diriger et commander ? On ne commande plus aujourd'hui comme on commande avant. Et pareil pour les entreprises. Comment aujourd'hui un manager va intéresser effectivement ses collaborateurs ? C'est différent. Donc il y a une rupture. Et puis, ils ont fait des choses aussi très intéressantes que je vais d'ailleurs transporter dans le monde entrepreneurial. Ils ont une équipe de l'Agence de l'innovation de la défense qui s'appelle la Red Team. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont imaginé tous les scénarios avec des dessinateurs, avec des, avec tout un écosystème de gens qui faisaient de la science-fiction, etc., pour imaginer les scénarios de demain les plus improbables. Et ça, ce sont des scénarios auxquels on est confronté, avec des solutions, comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique et d'autres sujets. Donc, voyez, en fait, on a tendance à vouloir enfermer les gens dans des carrés. Il faut faire sauter tout ça, parce que dans la vraie vie, et vu les défis qu'on a à traiter, je crois qu'il faut vraiment avoir une vision très latérale aussi.
Voilà, Timothée, je pense que ça répond à votre dernière question également. Exactement. Le nouveau challenge. Merci beaucoup, Philippe.
Merci beaucoup.
Merci, Timothée. Merci infiniment, Vincent. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.